17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Merci de nous retrouver dans ce grand témoin consacré à l'Algérie. L'Algérie qui vit des moments difficiles, qui connaît des soubresauts maintenant depuis de très nombreuses années. Et cette émission sera consacrée à la sortie de crise, s'il en est, et en compagnie de Liazid Benhami. Bonjour Liazid, merci d'être avec nous.
Bonjour Monsieur Khétan.
Alors, vous êtes écrivain et vous êtes vous avez un regard très particulier sur l'Algérie, puisque vous êtes algérien, vous collaborez à différentes revues, et vous êtes en même temps, vous avez un certain recul qui vous permet d'avoir des analyses assez pertinentes. Je le disais d'entrée de jeu, l'Algérie est un pays qui connaît sans arrêt, qui a connu depuis des siècles des colonisations, des violences. On a l'impression que ce pays n'est jamais en paix et il n'est jamais en harmonie avec lui-même. Il n'est jamais réconcilié avec lui-même. On a eu, bien sûr, au terme de 130 ans de colonisation française, après 400 ans de colonisation turque, on a eu une révolution, on a eu une guerre et une indépendance. Et malgré cette indépendance, près de 60 ans après, un nouveau besoin de révolution et de dire, voilà, nous voulons être indépendants. Qu'est-ce qui se passe en Algérie? Pourquoi ces soubresauts? Pourquoi ce pays est sans arrêt dans des violences permanentes? Alors ces violences, la plus horrible et la plus atroce a été ce que pudiquement on appelle la décennie sanglante, mais qui était une vraie guerre civile, à plusieurs centaines de milliers de morts, une réconciliation qui a fait figure d'amnistie, et on ne sait pas ce que sont devenus les orphelins de cette décennie. On a vraiment le sentiment que ce pays a du mal à se réconcilier avec lui-même. Aujourd'hui, on a le Hirak, on a une situation institutionnelle particulière, une situation de blocage, une économie au ras des pâquerettes. Et dans ce cadre-là, qui est quand même assez sombre, il y a des espoirs. Et vous faites partie de ces lueurs d'espoir, puisque vous dites « sortir de la crise, c'est possible ». Alors, tout d'abord, Liazid Benhami, aujourd'hui, ça vient de tomber. La Tunisie vient de déposer le bilan. Donc l'avenir de la Tunisie est dans les mains du Fonds monétaire international. Le voisin marocain est pris aussi dans les affres de la contestation à la fois sociale, politique, et connaît aussi de graves problèmes à travers les réfugiés en Méditerranée. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez d'abord nous brosser l'état de la situation en Algérie et qu'est-ce que vous entrevoyez pour sortir ce pays de la crise et le mettre sur des rails, peut-être, d'une meilleure harmonie, d'une situation qui ferait que enfin on pourrait entrevoir un avenir radieux s'il en est. Liazid Benhami, c'est à vous.
Merci de m'avoir invité, Monsieur Khétan. C'est vrai que aujourd'hui parler de l'Algérie, c'est bien. Mais je pense que faire dire ce qu'est l'Algérie depuis ces décennies et depuis ces derniers siècles, c'est important. L'Algérie c'est appartient premièrement à une grande culture, à une culture millénaire que sont les berbères et les méditerranéens. C'est vrai qu'il y a eu les colonisations et cette indépendance qui est là depuis 60 ans, s'est faite par l'adhésion du peuple. Pourquoi je vous dis l'adhésion du peuple? Parce que après l'indépendance, il faut quand même faire société. Voilà, c'est-à-dire que l'Algérie a acquis son indépendance, mais au regard de ce qui se passe et de ce, et, et, et de ce qui s'est passé pendant 60 ans, on voit que le peuple algérien a du mal à faire société. Et tout l'enjeu est là. On a eu des pays qui sont sortis de la colonisation tels que le Vietnam, mais il a su au gré de certaines crises, mais quand même faire société. Donc il y a eu un peuple. En Algérie, on a du mal. On a du mal. Bon, je vais pas revenir sur les différents axes politiques et dénouement historique pendant la guerre d'Algérie et après la guerre d'Algérie, ce qui a amené Ferhat Abbas à une indépendance confisquée. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu plusieurs décennies qui revendiquent leur part de liberté. Donc il y a eu le printemps berbère des années 80. Pour moi, ça a été le premier mouvement.
Paradoxalement, le printemps berbère a été peut-être le premier événement des printemps arabes.
Des printemps démocrates.
C'est un jeu de mots, mais c'était le premier. Une vraie revendication démocratique.
Voilà.
Et qui dépassait largement le contexte régional.
Bien sûr.
Le pouvoir de l'époque a voulu régionaliser cette révolte, en faire une histoire kabyle, etc. Alors que c'était un vrai mouvement qui demandait la démocratie de l'Algérie, déjà avec l'égalité homme-femme, une clause de conscience du point de vue religieux, etc.
Donc, exact.
C'était vraiment un vrai moment révolutionnaire qui devrait d'ailleurs être enseigné dans les écoles ou à Sciences Po.
C'était le premier mouvement démocratique au monde. Ça a été bien avant la Roumanie, bien avant la Pologne.
Il faut rappeler qu'à ce moment-là, il y avait toutes les manifestations syndicales en Europe de l'Est.
Voilà. Après, bon, il y a eu après 88. Malheureusement, donc, on connaît la décennie noire qui s'est prolongée. Et là, donc, il y a le halak. Ce qui se passe, c'est que si on veut faire un parallèle par rapport à la Pologne, il y avait quand même un syndicat qui a joué le jeu, qui a unifié tous les intervenants contestataires. En Algérie, aujourd'hui, lorsque on fera, je vous le dirai peut-être tout à l'heure, lorsqu'on fera peut-être le bilan de la situation, on manque de catalyseurs pour contenir.
Le HERR arrive quand même à un moment où pendant le règne de Bouteflika et même avant, les gens contestaient par la rue. Il y avait un problème d'eau, ils faisaient des barrages, un problème de gaz, ils faisaient des barrages, un problème de logement, ils faisaient des barrages. Ils descendaient dans la rue, ils bloquaient la circulation, ils allumaient des feux avec des pneus, etc. C'était une contestation de la rue déjà à l'époque. Et il y avait aussi quelques partis politiques, même s'ils étaient, ils avaient de la peine à bouger un petit peu, et il y avait aussi une société civile avec un syndicat notamment dans la santé et dans l'éducation nationale. Il y avait des associations de jeunes qui bougeaient un petit peu. Il y avait quand même quelque chose, et le Halak a catalysé tout ça. Et c'est toutes ces années et tout ce bon monde qui s'est retrouvé dans la rue.
Oui,
il ne tombe pas du ciel quand même, le Halak.
Non. Le Halak, en tant que contestation, en tant que mouvement qui catalyse, qui regroupe toutes les contestations, non, il ne tombe pas du ciel. Il vient de très très loin. Maintenant, dire qu'au sein du Halak, on a une tête, il y a une organisation qui unifie les contestations. Je pense que humblement, je pense que non. Je pense que non. Et vous avez tout à l'heure cité l'ère de Bouteflika. pendant 20 ans, Bouteflika a usurpé la scène politique. C'est aucun parti, moi qui avait suivi tout le travail du FFS déjà pendant la clandestinité, après 90 et surtout après de l'arrivée de Bouteflika, aucun parti n'avait écho.
Il
a tout laminé.
En laissant des espèces de
lambeaux
qui s'appelaient FLN et RND, et qui étaient c'était même pas des partis, quoi.
C'était des satellites. Il fallait se donner une image de démocratie parce que bon, là on avait un pharaon qui arrivait et il fallait se donner des soupçons de démocratie.
Quelqu'un qui était arrivé pour faire deux mandats et qui finalement est sorti par la petite porte parce qu'il voulait faire un cinquième mandat. Il a été mis dehors, quoi.
Et c'est vraiment dommage parce que ce qui manque en Algérie et ce qui a manqué toujours juste après l'indépendance, c'est vraiment la question politique. On arrive à parler d'une manière aisée, d'une manière transparente de politique, on peut se dire, ah, voilà, il y a un avenir.
Alors, donc justement, sur cet avenir, on en parle dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Avec Yazid Benhammi, écrivain sur la sortie de crise algérienne. Yazid Benhammi, vous avez fait plusieurs ouvrages et plusieurs interventions et vous réclamez une constituante, vous réclamez une conférence nationale, vous réclamez une constitution et vous dites le dialogue s'impose à tous. Donc ces histoires de constituante, tout le monde la réclame et vous dites le dialogue s'impose à tous. Mais comment dialoguer avec un régime militaire qui vous arrête de façon arbitraire, qui met les gens en prison parce qu'ils sont dans la rue, qui s'assoit sur le droit associatif, qui va dialoguer? Le régime militaire dit c'est moi qui commande. Ou c'est comme ça ou tu te tais. Et si t'es pas content, tu vas en prison. Donc qui doit dialoguer?
Je comprends ce que vous dites, Monsieur Khétan. L'heure est grave. Le dialogue s'impose à tous. Ça, je le redis.
La population, ceux qui manifestent, veulent dialoguer.
Je comprends ce que vous dites.
Dialoguer, ça veut dire quoi?
Dialoguer.
Prendre en considération les revendications.
La première des situations, c'est rétablir la confiance. C'est la priorité de sortie de crise. Et pour rétablir la confiance, il faut que le pouvoir arrête les arrestations arbitraires. Il faut que le pouvoir laisse la place libre à la presse. Ce sont des priorités. Maintenant, dire que là vous parliez de constituante. Moi, je parle d'une
conférence nationale.
Nationale. L'initiative ne pourrait être faite que par le pouvoir. Pourquoi par le pouvoir? Parce que c'est le pouvoir qui est organisé. Aujourd'hui,
en fait, la seule structure organisée en Algérie depuis l'indépendance, c'est l'armée.
C'est le pouvoir, c'est le gouvernement.
Le pouvoir, c'est encore autre chose. C'est un pouvoir un peu occulte, c'est des clans, etc. Mais l'armée est la seule organisation structurée, organisée en Algérie.
Honnêtement, je ne saurais vous dire à mon niveau si c'est l'armée ou si c'est un pouvoir occulte. En tout cas, c'est l'exécutif. C'est l'exécutif. L'initiative revient à l'exécutif. Nous sommes dans un pays avec des frontières, avec des institutions. Il faut que l'exécutif fasse l'initiative du pouvoir. Mais avant d'arriver à cette conférence nationale et à ce dialogue, il faut rétablir la confiance. La confiance, c'est quoi? L'arrêt des intimidations du Harak, la libération de tous les détenus et bien évidemment la liberté de la presse doit être vraiment
À propos de cette liberté, justement pour illustrer ce que vous êtes en train de dire, je vous propose d'écouter Hakim Haddad, qui est un des militants du Rassemblement Action Jeunesse, qui est aujourd'hui subi les coups de boutoir du pouvoir parce qu'ils veulent dissoudre cette association. On se rappelle que l'association SOS Babeloued a été aussi dissoute parce qu'ils avaient un peu de matériel et ils étaient très impliqués dans le Harak à Babeloued, c'était des jeunes. Mais donc, on les a accusés de recevoir du matériel d'une puissance étrangère. Ils avaient 2-3 ordinateurs qu'ils avaient dû recevoir comme ça en don. Et puis, on a aussi ce jeune magistrat qui vient juste d'être radié de la magistrature parce qu'il a refusé de condamner des jeunes du Harak. Donc, c'est ce magistrat qui vient d'être radié définitivement de la magistrature. Et on a cette association, Rassemblement Action Jeunesse, qui peut être une des plus emblématiques puisque ça fait entre 30-35 ans qu'elle existe. Et aujourd'hui, on lui dit, vous n'êtes pas dans les clous, vous êtes contraire aux constantes de l'État et on veut la dissoudre. Donc, ce que je vous propose, c'est d'écouter Hakim Haddad, qui est l'un des animateurs de cette association.
Bonjour, oui.
Oui, bonjour.
Oui, oui. Je vous entends.
Je rappelais à l'instant que on parlait un petit peu de Liazid Benami, qui est mon invité, demandait un rétablissement de la confiance. Et donc, pour lui, ça passe par instaurer des libertés démocratiques, la liberté de la presse, la liberté associative, libérer les détenus, etc. Et je rappelais à l'instant que on a menacé et dissous SOS Babeloued, qui était très impliqué dans le Harak. On vient de radier, pardon, de la magistrature, le jeune magistrat qui avait refusé d'enfermer les manifestations du Harak. Et aujourd'hui, on menace l'association Rassemblement Action Jeunesse, qui est une association qui existe maintenant depuis 30-35 ans, qui est impliquée dans le mouvement démocratique algérien, de la dissoudre. Et vous êtes membre de cette association. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
D'abord, merci de l'invitation. Merci de nous donner la parole, en particulier en ces heures difficiles. Je ne suis plus membre de l'association vu que j'ai pris quelques années. Je suis plus très très jeune, donc j'ai dû me retirer de l'association. Elle est gérée par des jeunes aujourd'hui, dont le président est Fassaoui Abdelwahab. J'en ai été membre fondateur et secrétaire général pendant quelques années. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? C'est une attaque en règle de la part des autorités, de la part du pouvoir algérien, de la part du gouvernement algérien sur tout ce qu'il y a de voies libres et de voix autonome en Algérie. Effectivement, comme vous l'avez dit, SOS Babeloued est une association socio-culturelle qui forme les jeunes et qui fait un travail remarquable dans le quartier de Babeloued, qui forme des jeunes au théâtre, à la musique, qui donne des cours de soutien scolaire, sachant que dans ces quartiers, le quartier populaire de Babeloued, les gens n'ont pas énormément d'argent pour payer des cours à leurs enfants, etc. Donc cette association se retrouve aujourd'hui fermée avec notre ami Nasser, qui est le président de l'association, qui est croupi depuis plus d'un mois en prison. Effectivement, l'association RAGE, qui est visée par le ministère de l'Intérieur, qui vient d'introduire une demande de dissolution de cette association, sans parler bien sûr des partis politiques comme le PLP, l'UCP, qui ont reçu les mêmes menaces de la part du ministère de l'Intérieur, les journalistes qui continuent, je rappelle qu'encore ce matin, la journaliste Kenza Khato, qui a été interpellée, qui est restée 5 jours en garde à vue, tout simplement qui faisait son travail, et bien qui vient d'être condamné à 3 mois de prison avec sursis. Mais même si c'est avec sursis, il y a quand même une condamnation. C'est une attaque en règle contre tout ce qu'il y a de voies libres et autonomes dans ce pays, et tous ceux qui ont joué un rôle plus ou moins petit ou grand dans le Harak. Donc le pouvoir algérien a décidé d'en finir après les grosses répressions qui sont tombés sur les manifestants pacifiques, que ce soit à Oran, à Alger, à Constantine et dans les autres grandes villes, maintenant ils s'attaquent aux organisations et ils croient que en faisant taire juridiquement ou en tentant de faire taire juridiquement des associations, en l'occurrence comme le RAJ ou SOS Tadoued ou des partis politiques, ils pensent qu'ils seront tirés d'affaire. Et je voudrais juste dire rajouter une chose, c'est que tout ça, tout ça se fait dans le silence des capitales étrangères et souvent un silence qui est aussi complice. Voilà.
Merci.
Quand on voit la réponse, si je puis me permettre, la réponse qu'a donnée le ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, la semaine dernière, à une question d'une sénatrice, Mme Le Rossignol, qui lui posait la question de que fait la France par rapport à la répression en Algérie qui tombe sur les manifestants pacifiques, la réponse de M. Le Drian a été on ne peut plus provocatrice, en disant qu'il y avait un processus électoral en cours et qu'il fallait, au lieu de critiquer le pouvoir algérien, le soutenir. Voilà, donc c'est non seulement un silence, mais un silence complice de ce qui est en train de se passer en Algérie et qui est inadmissible et qui doit être mis en valeur. Et entre autres, c'est une des raisons pour laquelle je salue votre radio de parler de ce qui se passe en Algérie.
Merci Hakim Haddad. Je rappelle que vous êtes un des fondateurs de Rassemblement Action Jeunesse et que vous êtes un militant très impliqué dans le Hadar depuis le début, que quasiment tous les vendredis aux manifestations, et que vous êtes associé à toutes les formes de coordination et pour cette sortie de crise que nous abordons dans cette émission. Yazid Benhammi, quand vous entendez ça, comment parler de confiance?
Oui, c'est la confiance doit se construire. Premièrement, là, je vois que bon, nous sommes sur le thème de sortie de crise. Parallèlement, ce que l'on constate, est-ce que le processus électoral initié depuis le référendum, en passant par les présidentielles et maintenant les législatives, est-ce que c'est la solution pour sortir de la crise en Algérie? Moi personnellement, je le pense pas. C'est pour ça que dernièrement j'ai essayé de faire une proposition qui est cette conférence nationale qui s'impose à tout. Une conférence qui devra débuter puis s'acheminer par paliers successifs de la commune en passant par les daïras et les wilayas pour finir à l'échelle nationale. Chaque conférence sera représentée par un tiers de la société civile, dont bien sûr l'association RAJ à sa place, bien sûr. Les deux tiers restants reviendraient au corps constitué, aux partis politiques, bien entendu, aux différentes structures sociales. Par ce principe, l'hégémonie d'un groupe sur un autre sera évitée. Je pense aussi au courant fondamentaliste. Le seul gagnant, ce sera le peuple.
D'accord. Alors, c'est ce que vous appelez le processus bottom-up qu'on va analyser dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
En compagnie toujours de Yazid Benhammi, écrivain sur la sortie de crise algérienne. Vous parlez à l'instant de ce processus. Le processus pour sortie de crise que vous appelez vous-même bottom-up, donc c'est-à-dire du terrain vers le haut. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus quand on sait que l'Algérie, d'ailleurs comme tous les pays de la région, fonctionne de façon pyramidale, avec le Zaïm, avec le chef qui donne ses directives et qui a très peu de consultations. Alors comment allez-vous mettre en place ce processus bottom-up?
Bon, ce processus, je pense que il faut partir d'un constat. Nous sommes dans une crise bloquante, voilà. Et aujourd'hui, le peuple est représenté par le Hirak et on ne peut pas construire sans l'adhésion du peuple.
Alors vous savez que certains oligarques du pouvoir ont traité les magistrats de Hirak d'homosexuels, d'égarés, de drogués. Et ça, c'est aussi ça perdure, quoi. Même si c'est maintenant c'est moins formalisé, mais on dit que le Hérar, oui, c'est des voyous, on ne sait pas ce qu'ils font, ils ne représentent personne, etc.
Le processus dont je vous parle, c'est-à-dire le processus qui va initier la conférence nationale, devrait commencer par nos fameux Jemaah, par les assemblées. Donc moi je la situe la première à la commune, à l'échelle de la commune.
Et en plus, c'est la cellule de base démocratique de la région, de toute l'Afrique du Nord, de l'Algérie en particulier, celle que France Fanon lui-même a vanté dans ses livres, celle que Karl Marx a vanté aussi dans ses livres. La Jemaah de base de l'Afrique du Nord, de l'Algérie, est un élément démocratique qui a fait ses preuves
et qui est moderne. Ce qu'il faut se dire, c'est comment peut-on faire société, comment créer un débat national d'une manière apaisée. Donc dans cette première assemblée nationale dans la commune, j'ose penser que le tiers citoyen sera pris par la société civile. Et donc, par la société civile, vous avez les gens du les personnes qui représentent le Hérar, comme on pourrait aussi des personnalités comme on pourrait avoir aussi des personnalités civiles, comme des directeurs de d'école, comme des personnes.
Donc vous avez le tiers citoyen, et les deux tiers, c'est qui alors?
Les deux tiers devraient revenir bien sûr aux partis politiques, parce que il faut entre guillemets des professionnels.
Donc, société civile, partis politiques, et le troisième tiers.
Les deux tiers restants, c'est corps constitué, structure
Assemblée nationale, Sénat,
sociale, voilà. Ouais, il faut qu'on puisse partir de discuter de manière simple
et à la clé arrêter de criminaliser le Hérar.
Et arrêter de
le brandir comme un bouc émissaire.
Bien sûr.
Et de dire qu'il est responsable de tous les maux de la terre.
Le Hérar est là pour qu'on puisse prendre conscience de la situation interne. Nous sommes dans une
Et en même temps, c'est extraordinaire parce que le pouvoir lui-même traite le Hérar de Hérar béni, comme on dit le Coran béni ou le Ramadan béni. Et on dit que Abdelmadjid Tebboune parle lui-même de Hérar béni. Et ce Hérar béni, on le criminalise. On dit que c'est des voyous.
Je comprends. On peut le qualifier de béni si on prend des réformes justes et viables. Mais si on le qualifie de béni et après donc que les éléments du Hérar se retrouvent en prison, c'est ridicule. Maintenant, la situation politique doit venir de l'intérieur, des Algériens.
Seule façon pour réconcilier les Algériens.
Seule façon pour réconcilier les Algériens. On a une situation économique, sociale et sociétale très chaotique. Sans revenir à la situation régionale, l'Algérie doit reprendre son destin politique. Et il ne peut pas, on ne peut pas aller siéger à l'ONU ou donner des gages aux autres nations sans l'aval du peuple algérien. Ça ne s'est jamais vu.
Alors, et comment vous voyez donc cette place de l'Algérie? Parce que on parle beaucoup d'influence loco-régionale et régionale au sens large. Bien sûr, l'Algérie a plusieurs frontières avec la Libye, la Tunisie, le Maroc, le Niger, le Mali, etc. Donc des frontières sécuritaires. Et d'ailleurs, le pouvoir brandit à chaque fois l'épouvantail de la Syrie. Et de l'autre côté, on voit la France, comment elle se comporte au Mali, hein, le Mali qui vient d'avoir plusieurs coups d'État. Comment voyez-vous, comment l'Algérie doit évoluer dans ce cadre régional avec ce qu'on appelle les ingérences?
Je vais être honnête avec vous. L'Afrique est devenue maintenant un champ de jeu de grandes nations. Il y a un proverbe kabyle qui dit que si on est frappé, c'est qu'ils nous ont reconnus. Aujourd'hui, c'est à l'Algérie de se lever, de s'organiser avec ses institutions et avec son peuple. L'urgence est de revenir sur la table de négociation, de dialoguer avec une méthode cohérente pour sortir de cette crise. Cette conférence nationale que je dis de mes voeux qui peut durer entre huit et un an et finir monter par palier de la commune, d'Aïra, Wilaya pour venir au national et finir par un gouvernement d'union nationale parce que on a quand même une aubaine, c'est que aujourd'hui il n'y a pas d'assemblée nationale. Donc c'est maintenant qu'il faut faire les choses. C'est maintenant qu'il faut dialoguer avec le peuple. Après le dialogue et après l'avènement d'un gouvernement national qui va entériner les revendications du peuple, on pourra aller aux élections et l'Algérie sera forte. Et elle pourra discuter en étant revigorée avec les autres États.
Et pour terminer, que pensez-vous de cette menace qu'on brandit? On a la guerre civile et l'image de la Syrie, puis de l'autre côté, on dit il y a les islamistes qui sont là, il y a le terrorisme islamique, tout le monde sait que les islamistes sont très puissants en Algérie, sont très organisés, ils ont des moyens financiers, on les retrouve d'ailleurs dans l'immigration. Est-ce que vous pensez que un schéma comme on l'a connu avec le Front islamique du salut sous d'autres formes, est-ce que vous pensez que le mouvement islamiste peut demain s'imposer en Algérie?
Honnêtement, on a quand même une institution militaire importante.
Donc vous êtes partisan de l'armée garant de la menace islamique.
L'armée doit être garante de la paix civile. Ce n'est pas en termes de.
Imaginons que demain les islamistes remportent les législatives. Est-ce que vous voyez aucun inconvénient à ce qu'un premier ministre islamique dirige le pays, le gouvernement?
En tout cas, on doit discuter dans cette conférence avec le tiers citoyen. Tout a été fait pour que aucun groupe ne puisse avoir l'hégémonie. Et je vais revenir à ce que vous me disiez. Le seul ennemi pour l'instant, c'est l'immobilisme et surtout ne pas faire de réformes économiques, parce que s'il y a une crise économique, ça ouvre les champs à tout vent.
En tout cas, avec des voisins qui déposent le bilan, qui vont très mal, l'Algérie aussi n'a pas une situation florissante du point de vue économique, puisque le baril de pétrole a chuté, et que les investissements en hydrocarbures sont encore très faibles. Donc une situation quand même assez compliquée, assez complexe, assez difficile. Donc effectivement, on se dit que finalement, les gens intelligents devraient parler ensemble. Donc peut-être que dans l'armée, des gens entrevoient une sortie de crise avec peut-être un dialogue avec la société civile. Cette société civile quand même qui comporte des gens éminemment brillants. Il y a des leaders politiques, il y a des leaders syndicaux. Peut-être que une fraction de l'armée ou une partie de l'armée voudra maintenant faire un petit peu comme au Portugal avec la révolution des œillets, peut-être faire une transition avec une partie de la société civile, et peut-être que la chose se réglera de cette façon.
La transition démocratique s'impose si on ne dialogue pas avec toutes les parties que représente ce peuple algérien, on n'aura pas réussi. Maintenant, est-ce que tous les actifs en âge de travailler vont être militaires? C'est pas possible. Donc il faut que l'économie revienne, il faut que la confiance revienne. Si l'économie repose sur la confiance et bien sûr l'épouvantail sécuritaire, s'il n'y a pas de développement, il y a une misère, on aura encore des mots à se faire.
En tout cas, Yazid Bellamy, merci. On retiendra de votre sortie de crise un appel au dialogue, un appel à la tolérance, à la main tendue, que l'intelligence des Algériens sera plus forte que tout, et que après d'ici quelques semaines, on aura peut-être finalement une grande conférence, peut-être que vous serez entendu. En tout cas, merci d'être venu nous éclairer de vos lumières sur cette Algérie qui n'en finit plus de souffrir et de connaître des soubresauts. Voilà, en tout cas, merci beaucoup et à très bientôt sur Beurre FM.
Merci à vous.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.